que me dio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, andas crudo, buscas remedio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, 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 brujería. Si te cansas de esta hierbita. Marihuana, marihuana, cocaína.
Éphémère, 25 ans qu'on se la pète.
Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Éphémère, nous sommes le samedi 21 octobre 2006 et que va-t-on vous fourrer dans les oreilles aujourd'hui? Mamma mia, attention, nouvelle grille. Eh bien, figurez-vous que de suite, c'est le supplément week-end, une émission spéciale avec une grosse interview BD et de la télévision, et puis un peu de baston, hein, un peu, histoire de pousser un peu jusqu'à ça, c'est du sport. À 13h, les résultats en direct des stades, et ensuite, à 15h du mix, avec scène transmission, à 16h, encore une nouvelle émission, c'est le potager, à 17h, Big Bang, 18h, vie d'ordure, c'est du punk, 19h, attention, c'est une émission musicale. Appelez le docteur Clounet, ça s'appelle Protésez-vous. Non, j'ai pas un cheveu sur la langue, c'est normal. 20h, la Cétéro Expérience, à 21h30, stay tuned. Voilà, et tout ça, parce que on va quand même mettre de la musique qui va bien cartonner aujourd'hui, ce soir. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée en notre compagnie. Et où ça?
FMR. FMR, la French Independent Radio Libre since 1981.
Et aujourd'hui, on va faire dans le supplément week-end. Je vais vous présenter quelqu'un qui est vraiment important à mon sens pour ce qui est de la bande dessinée, qui représente vraiment l'évolution de la BD sur ces 25 dernières années, puisqu'on est dans le cadre des 25 ans de Radio FMR, comme vous le savez, dans cette saison. Je vais vous faire découvrir quelqu'un d'assez extraordinaire. Mais tout de suite, un petit peu de musique pour mettre dans l'ambiance. Et hop, ciao. Danky Groove, extrait de l'album Ha, qui n'est jamais sorti en France, il est juste sorti en promo, et puis après on l'a plus vu, c'est bien dommage. Vous allez franchement découvrir quelque chose d'assez exceptionnel. Ça date de 97, ce morceau, et il s'appelle Volcanic Drum Beats. y a bien quelqu'un qui m'a fait découvrir justement Denki Groove, c'est justement l'invité dont il va être question tout à l'heure, et un lecteur CD qui est en panne. Allez, ça commence bien, vous êtes sur FMR 89.1 MHz, on va essayer de s'en sortir comme on peut. Vous en avez l'habitude à force, hein. Donc on va arrêter. La radio fête ses 25 ans et ça ne s'arrange pas, comme vous pouvez l'entendre, c'est toujours aussi problématique. Mais je vous rassure, on va vraiment vous faire découvrir quelque chose aujourd'hui d'intéressant, un individu complètement allumé, qui à mon sens mérite vraiment d'être découvert dans le supplément week-end. Et pourquoi, après tout, pourquoi avoir passé se dire comme ça, ouais, on fait les 25 ans de la radio, en ce moment il y a Rascal qui est dans sa quotidienne 5 à 7, Nelly Furtado, non c'est Placide Nelly, voilà le nom de l'émission. Pourquoi en ce moment il se dit il invite les animateurs et il dit oui, quel est le disque pour toi qui a vraiment compté dans les 25 ans, voilà. Moi, j'avais présenté un album de The Orb, et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire la même chose, mais avec un individu, quelqu'un qui a vraiment compté, pour moi, à mon sens, dans la bande dessinée récente. Une rencontre qui, à chaque fois, est vraiment agréable de faire avec lui, et ben, pourquoi pas. Cette personne en question, c'est pas un auteur, c'est un éditeur. C'est assez intéressant d'en parler maintenant, justement parce que Jean-David Morvan parle de s'installer maintenant au Japon. Oui, le Morvan qui scénarise Sillage ou Spirou, donc il en parle dans le dernier Télérama, au moment où trois grands groupes de la bande dessinée française, Média Participation d'Argo, Soleil et Delcourt, se battent pour essayer de rattraper le premier qui s'y est lancé dans le créneau, à savoir Glénat. Sur le secteur de la manga, et ben il est peut-être enfin temps de projeter la lumière sur l'éminence grise de la bande dessinée japonaise en France, à savoir Dominique Véré. Co-fondateur de la librairie Tonkam, fondateur et principal animateur, je dirais aussi, des éditions Tonkam de la fin des années 80 jusqu'au début des années 2000, fondateur du label Akata, directeur de collection chez Delcourt, Dominique Véré, et ben c'est un allumé total. Si je parle de manga depuis 93, si des éditeurs comme Casterman ou Dargo Canas s'intéressent à la manga, si Doki Doki et Chiaopan, qui sont des toutes petites structures qui se montent en fait, font découvrir des genres entiers, si Europe 2 télédiffuse des séries comme Beck et Canal+, Samurai Champloo, nous le devons tous, inconsciemment ou non, à cet ancien libraire parisien qui est allé chercher de nouvelles good vibes au pays du soleil levant. Dominique Véré est quelqu'un d'extrêmement éclectique, branché aussi bien sur le hip-hop philippin que sur les graphes taïwanais. Et même si des concurrents lui ont soufflé une œuvre, eh ben il va quand même, pour ses copains, en faire la pub d'une manière absolument passionnée. Par exemple, pour moi, ben il m'a parlé bien avant que cela arrive en France de Serial Experiment Lane et Cowboy Bebop. Encore quand même un sacré flair. Volontiers provocateur quand il édite des œuvres déshabillées de Eugene, ce qui lui a valu quand même des petits soucis avec le ministère de l'Intérieur, qui à l'époque était à gauche d'ailleurs, il me semble. Ou sinon avec une réelle sincérité de partage dans les traductions de Osamu Tezuka, que cela soit dans Les Trois Adolphes ou dans La Vie de Bouddha, qu'il sort dans une édition particulièrement soignée en général. Il regarde bien au-delà du mainstream, il est ainsi capable de faire venir des œuvres totalement incongrues et visionnaires, telles la trilogie Amer Béton de Taio Matsumoto, qui parlait de banlieue, après tout comme n'importe quel auteur issu des barres grises en France l'aurait fait. Ou plus récemment, Yakitate Japan, encore un manga subversif où les Japonais vont apprendre à nos enfants comment faire du pain. Vous avez bien compris. C'est aussi un adepte convaincu de la partousse totale des cultures. C'est ainsi qu'il avait tenté de monter un studio, le studio Tonkam, à Katmandou, au Népal, à mi-chemin entre le Japon et l'Europe, qu'il avait monté un journal comme Tsunami, où il parlait aussi bien de visuel rock que de littérature expérimentale japonaise. Il paie de sa personne, de son temps, de sa générosité, pour peu qu'il y croit. Ce gars est un incurable passionné et vous allez le sentir, son énergie est communicative. Dominique Véré, interviewé en janvier 2006 au Festival International de Angoulême, maintenant, de suite, dans le supplément week-end sur Radio FMR. Dominique Véré, bonjour.
Bonjour.
Total respect dans ta face, tu sais pourquoi ?
Bonjour.
Total respect, hein, toi, grave.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Ben parce que tu es le mec qui a
qui a vraiment popularisé une branche du manga qui soit autre chose que du manga pour gamins, truc de baston, bête et Iyu, qui a vraiment amené la culture japonaise populaire en France et aussi asiatique au sens large, qui se bat continuellement justement pour montrer d'autres facettes, je dirais, qu'une culture purement mainstream et uniquement la bande dessinée et le dessin animé, et qui n'hésite pas des fois à y aller fort en gueule et je dirais pour secouer les puces de tout le monde, que cela soit aussi bien du public que des gens qui donnent à lire au public.
Si tu le dis, c'est lui qui le dit. Non, moi je fais mon travail.
Alors justement, ton travail, on va y venir. Ça a été ta facette actuelle, ça a commencé à ton CAM. Puis ensuite tu es parti de ton CAM. Tu as fondé Akata. Donc où c'est que ça en est actuellement et qu'est-ce qu'est actuellement Akata réellement?
Ah ben là on en est que la collection, les titres qu'on a choisis, ça commence à... On peut dire que ça commence à s'imposer, c'est un peu référent.
Donc ça, c'est des titres en fait que tu choisis pour Delcourt. Delcourt,
ouais. Akata ne travaille qu'avec Delcourt pour toute la politique éditoriale de la collection manga. Mais là, ce qui va recommencer, c'est que je vais superviser ce qui va se faire chez Tonkam en plus, quoi. Donc ça veut dire qu'au niveau Delcourt, je vais passer pas mal la main au fur et à mesure à Frédéric Guyader, quoi, pour la finition de tous les titres, pour la préservation de la qualité de ce qu'on veut faire, et puis continuer à évoluer pour faire mieux, quoi. Et en même temps, je vais être sur une autre collection à superviser, quoi. Donc je vais à peu près regarder 20 bouquins par mois au lieu d'en garder 10, plus que je vais regarder aussi du côté de la Corée, du côté de la Thaïlande, j'ai regardé du côté chinois aussi, mais tout doucement sans me prendre la tête, quoi. Et puis peut-être aussi sur des projets avec des auteurs japonais qui veulent sortir des bouquins chez Delcourt, quoi, des choses comme ça, quoi.
C'est ça qui est fou, c'est que en fait c'est un retour au bercail indirect via Tonkam où ça s'était très mal terminé, je m'en souviens. Et d'un autre côté, il y a un phénomène de concentration, c'est-à-dire un manga, ce qui a vraiment porté la manga en France, qui a popularisé, c'était des petites boîtes qui seront rachetées au fur et à mesure par les gros, quand c'est pas les gros qui développent en interne. Donc il y a trois grands pôles, il va y avoir Dargo, Delcourt et Soleil.
Ouais, mais moi je vais dire franchement, je fais pas trop attention à ça, quoi. Je suis dans mon truc, quoi. Parce que bon, là on est par exemple à Angoulême, donc à Angoulême il se passe des rencontres d'amis qu'on revoit tous les ans ici, ou des fois même qu'on revoit qu'ici une fois par an, et puis il y a des auteurs, et puis ouais, il se passe des choses humainement agréables et fortes, et en même temps on est dans le festival d'Angoulême, mais je dirais que le festival d'Angoulême, moi j'en ai rien à foutre, quoi. Le festival d'Angoulême dont on parle aux télé ou dans les médias, tous ces trucs là, quoi, moi ça, je sais pas.
Tu t'y retrouves pas?
Hein?
Tu t'y retrouves pas?
Non, pour moi, comment dire, je travaille dans la BD depuis 75. Donc j'ai un peu vécu plein d'époques. Et puis ce qui a fait que la BD, ben, y a tellement de gens qui en lisent maintenant, quoi. Donc ici, c'est le festival d'Angoulême, c'est quoi? C'est que des stands, des trucs de business et tout, quoi. Disons que c'est très très, c'est très triste, c'est très dommage pour le public, les gens qui aiment ce qui touche leur cœur quand ils lisent des BD, quoi. Ben si vous venez là, le contact, il est pas évident à se faire, quoi, parce que vous allez faire la queue, quoi, pour avoir votre bouquin, votre dédicace. Ça, c'est complètement le plan arnaque, quoi, tu vois. Et puis après, au niveau des gens qui sont mis en avant, de la mise en honneur, des prix, tout ça, il y a aussi encore beaucoup d'arnaques, c'est très marketing, très calculé, quoi. Et de temps en temps, il y a des trucs bien plein de fraîcheur et spontané qui peuvent sortir. Et ça, c'est parce qu'on est en démocratie, il en faut un peu, quoi. C'était tout, quoi. Non, Angoulême, ça se passe quand là, on discute ensemble, quoi, et plein de rencontres comme ça, à titre, on va dire, presque personnel, quoi. Tu vois? Mais non, le festival d'Angoulême, c'est pas comme ça que, comment dire, c'est pas comme ça que je conçois de vivre dans ma culture, dans mon travail, parce que je pense que dans la BD, c'est comme dans la musique, c'est comme dans le cinéma, quoi. On réfléchit des choses. On réfléchit des choses, c'est-à-dire que on est le miroir de ce qui travaille l'esprit de monsieur tout le monde, quoi. On est la projection pour ce qui se retrouve, quoi, qui sache qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas perdu dans le chaos, quoi. Tu vois? Et donc c'est vachement intercepté entre les deux. Il y a beaucoup de commerçants, tu vois, et qui sont analphabètes et ignares.
C'est ça que tu as amené vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'était amener la culture, parce que quand tu as fait venir Taio Matsumoto, tu avais fait une soirée musicale, tu as essayé de renouveler ça plusieurs fois, il y a l'événement cosplay, on est vendredi, ça a lieu demain. Donc vraiment amener le côté festif et le côté vraiment imaginaire de la bande dessinée. En même temps, Angoulême, c'est le premier festival à avoir créé des expositions, mais elles sont complètement délaissées du public. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Le grand public, c'est quoi, des vous?
Ah ben, je vais dire, je suis désolé, mais vous autres grands amateurs et consommateurs de BD, par rapport aux infos qu'il y a dans les BD, de quelque genre qu'elles soient, de quelque origine qu'elles soient, franchement, pour nous qui travaillons là-dedans, on voyait du bon zèf, quoi, et avec le peu de réaction qui est en face, ouais, vous êtes des gros veaux. Franchement, on vous dit tout. Vous bougez pas votre cul, là, vous êtes quoi? Ben oui, c'est lamentable. C'est-à-dire, franchement, pour continuer à travailler dans, je sais pas, faire de l'éditorial, chercher des livres par rapport à ce que ça demande de soi-même et tout, quoi. Parce que moi, je suis accaparé cette chose sociale, pas ça, j'ai pas de... Ben si, c'est obligé que ça soit, si c'était pas ma vie, ce que je fais, quoi. Ben vas-y, je me mets une balle dans la tête, je meurs, quoi. Ben non, faut toujours se donner, quoi. Et je veux dire, moi, nous, on est comme tout le monde, on regarde la télé, on entend les infos, on voit dans la rue le stress, truc tout pourri et tout, quoi. Et c'est notre façon de lutter par rapport à ça, quoi, de prendre nos responsabilités, puis de balancer, puis d'être réactif et tout. Et en face, franchement, ça bouge pas, quoi.
C'est ça qui est intéressant avec toi, c'est vraiment l'investissement que tu mets énormément dans le manga, ce qui fait que ce que tu proposes à éditer sont pas forcément des titres qui comme ça paraissent vendeurs, mais des titres qui ont un véritable message derrière.
C'est-à-dire, c'est même pas... Moi, je le vois pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, je suis basique. Si, je veux dire, t'aimes bien la bagnole et t'as envie d'avancer dans la mécanique, t'es obligé d'acheter des livres. Donc, t'achètes des livres de mécanique, tu les lis et ça te sert à réparer ta bagnole. Bon... Nous, on fait des BD, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça répare?
Ah, c'est ça qui est intéressant. Là.
Qu'est-ce que le lecteur répare avec?
Ouais, mais d'un autre côté, justement, tu as amené un genre de manga qui est très populaire au Japon.
Ce que je veux dire, c'est ça la fonction du livre, quoi. Moi, je travaille. Je veux dire, si je parie iconoclaste, tout ça, c'est parce que moi, je suis désolé, je travaille dans le livre, je fais des livres. Et un livre, c'est fait pour lire et pour appliquer, pour réfléchir. C'est-à-dire que ça provoque une transformation, quoi, ou un rejet, ce que tu veux, quoi.
C'est exactement ce que je voulais dire, en fait, c'est que tu as amené un genre de manga qui est absolument pas connu en France, qui semblerait, je dirais, pratiquement étonnant et même impensable. C'est le manga qui apprend à faire un métier, c'est Yakitate Japan, où il est question de boulangerie, et en plus tu t'es associé à un meilleur ouvrier de France qui s'est vraiment impliqué là-dedans. Est-ce que tu penses que vraiment là-dessus il y a un moyen de récupérer une jeunesse qui sont complètement paumés, largués de ce côté-là?
Il n'y a pas un moyen de récupérer, quoi. C'est horrible, ce genre de mots.
Bon, pardon, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, finalement, de leur tendre la main et de les aider?
Disons qu'il y a que... comment dire? Moi, j'ai 51 ans. Tu vois, là, je parle et tout, je suis là. Regarde, il y a une bière là.
Attends, on s'en fout de ton âge, t'as toujours été jeune.
Non, mais attends, ouais, je te dis, quoi. Là, je suis en train de boire une bière et puis, tu vois, je tourne un malade, là. Comme ça, je me concentre. Et puis, j'ai fumé deux pets pour me détendre parce qu'on bouffe que de la merde, ça me constipe, tu vois. Donc ça, tu vois, pour bien chier, tu vois, pour, il y a trop de constipés. Tu vois? Et donc, tu me demandes si je fais des trucs pour rééduquer les gens. Non, pas du tout. C'est-à-dire que, ouais, ce que je commence à te dire, j'ai 51 ans. Là, il y avait tout à l'heure mon fils Nagi, là, il travaille sur Coq de Combat et Baki. Et lui, il a 27 ans. Et puis, j'ai Maliwan qui a 5 ans. Puis, j'ai aussi ma petite fille, quoi. Et, comment dire, donc, j'ai pu observer des choses. J'ai beaucoup voyagé. J'ai vécu plein de situations différentes et tout, quoi. Et puis, je pense que, ouais, des titres comme Yakitate Japan, ben, par exemple, avec Yakitate Japan, il y a eu un mail sur le site internet d'un mec qui disait, j'ai jamais lu de manga, je suis boulanger, j'ai lu ça, mais c'est trop kiffant, ça le porte au nul, mec, tu vois, mais c'est ça. C'est-à-dire que, quel que soit, c'est le, bah oui, c'est, ouais, c'est un peu l'apologie de, vas-y, tu t'éclates, tu te trouves, tu te transcendes en étant boulanger, mais ça veut dire, tu peux être dessinateur, tu peux faire du cinéma, je sais pas, tu peux faire la plonge et tout, quoi. C'est de prendre ton pied dans ton truc, tu vois. Donc, moi, j'ai pas à rééduquer, mais je peux reposer des trucs sur la table qui disent, vas-y, essaye ce truc, c'est tout simple, quoi. Tu vois, il y a pas de niveau, quoi. On n'a pas fait l'Argo Winch où le mec, il est milliardaire, tu vois. Il a des histoires de milliardaire. Nous, on fait une histoire de boulanger, quoi. C'est par rapport à en ce moment, quoi. C'est mieux de faire une histoire de boulanger que l'Argo Winch. Ça me semble évident, tu vois.
Ouais, mais bon, malheureusement, quand on voit les chiffres, il y a de plus en plus de gens qui jouent au loto, c'est un peu déprimant pour ça.
Ouais, mais il y a de plus en plus de gens qui lisent des mangas, quoi. Et puis, tu sais, on fait une OP avec les boulangers. Je veux dire, les gens, les boulangers, je crois, c'est 25 000 points de vente en France, tu vois. Si on fait au 4e Yakitate Japan une opération avec les boulangers sur un manga de boulangerie, et même si chaque boulanger en vend un, ça fait 25 000, et là, il est parti à 15 000, ça fera 40 000. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire quelque part, en plus, c'est bâtard, quoi, parce que Villepin...
C'est joli, non,
c'est bâtard, parce que Villepin, il parle, vas-y, on va vous remettre des stages et tout, repasser le CAP et tout, mais nous, on fait du CAP fun, quoi. Tu vois, c'est genre, y a pas de CAP, quoi, vas-y, je m'éclate dans la boulange. Bon, tu vois, comme tu mixes, c'est pareil. Tu vois, le faire avec le même état d'esprit, c'est rock'n'roll, quoi, rock'n'roll japonais.
Ouais, et c'est ça qui est fait, Beck,
c'est pareil, Beck. Beck, c'est aussi Yakitate, quoi, c'est l'éclate dans ce que tu fais, quoi. Bah, quelque part, c'est du rap. Tu vois, c'est hip-hop et tout, quoi. Tu t'éclates dans ce que tu fais, quoi. Tu vois, dans ce sens-là... Dans ce sens-là, j'ai pas 51 ans, moi.
Ça, j'avais jamais douté. Mais justement, par rapport à tout le vécu que tu as eu, tu as commencé, tu as fait plusieurs fanzines, tu as bien débuté. Et surtout, tu as commencé via le... Tu as vu l'arrivée des comics en France. Quelle est la différence vraiment de portée entre l'arrivée du comics en France et l'arrivée du manga en France? Qu'est-ce qui fait que justement l'état d'esprit est très différent et qu'il est peut-être plus profond?
Bah, je dirais pas ça. Parce que tu dis l'arrivée du comics. L'arrivée du comics en termes génériques ou l'arrivée du comics de super-héros en moule-couille? Ah non, mais d'abord, avant qu'il y ait les super-héros, il y a eu après-guerre du comics avec des BD américaines qui sont sorties ici, Canif, tout ça, même des premiers trucs de Superman et tout. Mais vraiment l'explosion du comics en France, nous on disait des comics. À l'époque, c'est l'époque hippie, quoi, et le comics de contre-culture. Alors on va dire que quand le comics de super-héros en molko il gagne, quoi, bon ben on lit plus de comics, quoi. Tu vois, moi le comics c'est Crumb, c'est Shelton, c'est ouais Mad, tu vois, c'est Bernie Wyson, c'est Kaluta, c'est toute l'histoire des illustrateurs américains 60s, 70s, tout ça, toute la contre-culture, quoi. Tu vois, moi c'est plutôt j'ai vécu dans ça, quoi, dans la contre-culture, quoi. Mais en même temps, dans la culture ouvrière, la culture campagnarde. Tu sais, moi, j'ai de la chance quand j'étais gamin, j'ai commencé à lire de la BD, j'avais 5 ans. Et là où j'en lisais plus, c'était dans les chiottes de mon arrière-grand-mère. C'était dans la campagne, quoi. T'allais dehors, il y avait une espèce de cabane et t'allais chier là-dedans, quoi. C'était une planche en bois avec un trou. Et puis, tu te torchais le cul avec des morceaux de journaux, quoi. Quotidien régional. Et puis, il y avait des strips. Alors, moi, je disais, j'allais chier en lisant des BD, quoi. De journaux. Tu vois, c'était des Snoopy, des trucs comme ça, quoi, de l'époque et tout, quoi. Tu vois, et puis après, il y avait des petits formats, et puis après, il y a eu Pilote, et puis après, il y a eu toute la contre-culture américaine, quoi. Et puis après, il y a le cinéma, il y a eu la musique, quoi. Il y a eu les Beatles, il y a eu Hendrix, il y a eu tous ces trucs-là, tu vois. Et puis après, moi, j'ai continué le même état d'esprit vers le Japon. C'est pour ça, dans les années 90, on s'est bien amusé avec le manga, parce que nous, notre truc, c'était la continuité de la contre-culture, quoi, avec le temps qui passe, et puis ça finissait par passer par le Japon, quoi. Mais finalement, c'est vous qui allez vous saisir de la contre-culture japonaise, parce que maintenant, il y a un groupe qui passe à Paris tous les mois, quoi. Ça y est, nous, ce qu'on a fait dans les années 90 avec le manga, on a gagné, quoi. Tu vois, on a gagné, quoi. On a posé des trucs qui vont exploser maintenant, quoi. Tu vois, ça a été un long truc, quoi. Hein? C'est ça.
D'un autre côté, les éditeurs japonais voient l'Europe comme étant un plus, puisqu'ils sont autosuffisants sur leur propre série. Ils sont pas obligés de vendre à l'étranger, justement, pour rentabiliser ou pour vraiment gagner du fric. Comment on fait en général pour négocier avec le Japon? Est-ce que c'est vraiment difficile d'y percer? Est-ce que c'est un gros travail de fond? Ou est-ce que finalement, il suffit de poser le fric sur la table et puis de signer un papier?
Disons que ça a été difficile. Il faut expliquer, montrer, prouver tout ça avant. Et maintenant, il suffit de poser le fric sur la table et tu prends moins de temps à expliquer. C'est-à-dire, en gros, là, un peu n'importe qui peut faire du manga, quoi. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il a fallu prouver des mises à... Quand j'ai quitté Tonkam, je veux dire, pour eux, ils se sont permis d'avoir une opinion. Il a fallu que je remonte patte blanche, quoi. Je me suis fait chier la gueule, quoi, pour la contre-culture japonaise et la culture pop japonaise. Et quand j'ai quitté Tonkam, il fallait que je prouve que j'étais sérieux en commençant. Il a fallu que je recommence. Je me suis retrouvé dans la merde totale avec le chômage et tout, tu vois. Alors, je veux dire, Les Japonais, je m'en fous. Pour moi, là, quand tu dis les Japonais, toi, c'est le truc que tu vois avec la distance. Mais moi, quand je parle de Japonais, je vois des personnes qui ont des prénoms, des noms, ça dépend les relations. Et tout le côté business, je m'en bats les couilles, quoi. Moi, je vois des amis, des relations, des conversations intelligentes. La partie business, c'est très crétin, quoi. C'est très crétin. Pfiou.
Accessoirement, il y a des auteurs français qui enfin arrivent à... Enfin, je dirais enfin, ça a commencé depuis une dizaine d'années avec... c'était une initiative de Condensha de faire venir Baru, faire venir Frédéric Boilet et plein d'autres pour travailler chez eux. Et là, on a un peu le voyage retour puisque Jean-David Morvan vient de sortir un bouquin, Le Petit Monde, avec un jeune dessinateur japonais qui n'a pas encore publié de série au Japon. Finalement, on va pas un peu vers un esprit un peu plus universel, un peu plus mondialisé, je vais dire, des esprits un peu plus ouverts du cul.
Si on y va, mais comment dire, moi l'expérience Morvan, elle est pas emblématique de la direction vers laquelle on va, quoi.
C'est un coup pour toi.
Non, c'est l'histoire de Morvan. C'est l'histoire de Morvan, quoi. Moi, je suis dans... Je sais pas, je suis... L'histoire, ça va être... Moi, l'histoire, c'est... C'est les jeunes qui ont lu depuis des années les mangas, qui ont connu que ça, tous ces trucs-là, quoi. Et qui vont faire là des mangas, c'est eux qui m'intéressent, c'est pas Morvan. Morvan, Morvan, il fait son aventure personnelle dans sa relation avec le Japon. Mais ce que ça va donner, l'influence du Japon comme nouvelle BD, quoi. Moi, je vois autre chose, quoi. Moi, j'attends. Ce qui m'intéresse, qui apparaisse, quoi, c'est le côté quand la contre-culture française en BD, quoi. Quand les auteurs de BD qui sont vraiment qui sortent du terrain, quoi, vont pouvoir se faire publier en ayant fait des rencontres avec des Japonais qui sont aussi sur le terrain, quoi. Là. Je veux dire, ça sera la récompense du travail qu'on aura fait, quoi. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Nous, on a travaillé pour qu'il y ait un pont, quoi. Mais actuellement, le manga, il se fait. Le manga, il se fait avec des gens qui prennent des avions, quoi. Pour moi, le manga, ce qui l'amènera à une nouvelle génération d'auteurs de BD françaises, quoi. Ça se fera par ceux qui auront utilisé le pont. Tu vois? C'est-à-dire pour moi le manga il va pas se faire avec des gens comme Morvan, quoi. Il va se faire avec des gens qui habitent dans des cités, tu vois, avec des gens qui sont métis, pas avec des gens qui sont pour la mixité.
Ça a rien à voir là-dessus.
Ben non.
C'est loin d'être démago, c'est un accident finalement.
Il se pose pas de questions, tu vois. Là c'est il y a des gens qui se posent des questions sur des orientations de carrière, c'est très confus dans leurs esprits, quoi. Tu vois.
D'un autre côté, ce qui est assez étonnant, on n'y est pas encore, mais ça commence à venir de ce côté-là. C'est vrai que quand on va au Japon, quand on va en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan, c'est vraiment le côté pop qu'a le manga. C'est un peu comme ça a été le disco à la fin des années 70 aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire que ça a littéralement envahi et révolutionné bien au-delà de leur domaine particulier. C'est-à-dire pour la disco, c'était la musique. Là, on a vraiment eu un changement sur les vêtements, sur les publications, sur la manière d'écrire et tout ça. On va vers un vrai renouvellement. Est-ce que c'est vraiment pas dommage que la culture n'agisse que par palier?
Ah mais ça c'est inévitable, hein. Si tu veux, on avance avec des fessées. C'est normal. Ça avance par à-coups. Un coup de pied dans le cul. Mais c'est... l'histoire, elle est pas comme ça. Linéaire, attends. Elle est quelque part, quoi. Au sol... C'est par à coup. Quand tu montes au ciel, c'est un mouvement.
Dom Dom, on se souvient, tu nous as fait découvrir à Toulouse Kemori qui était venu en concert et ça avait été un succès. Le Café Rex avait été plein. Il y a eu aussi Denki Groove qu'on a passé sur FMR. Il y avait évidemment depuis un bail des groupes comme... bon, ça y est, j'ai oublié le nom, mais bon, plus reste... plein d'autres. J'ai complètement oublié le nom, tu connais, j'ai ma mémoire qui est pleine de trous. Oui, le chanteur de X Japan, le guitariste, pardon.
Ouais. Idée, c'est important. je veux dire, pour moi...
Avec les monnettes qui avaient bien marché aussi sur un projet qui était...
Je dirais que les gens, dans les personnes un peu intéressantes dans le manga qui ont écouté de la musique, quoi, ceux qui aiment idée, c'est des gens intéressants, ça. Ou ceux qui aiment Mad Capsule Market, Kenichi, des gens comme ça, quoi. Ou même Sakamoto, mais plus Yellow Magic Orchestra.
Oula, là on remonte, hein.
Ouais, mais moi j'ai pris Yellow Magic Orchestra dans la gueule à l'époque où il y avait Kraverk, tu vois. À l'époque de Komish Music, tu vois. Komish Music, ouais, c'était bien, la techno-pop japonaise, quoi. Pour arriver à tout ce qui est électronique, électrique. Kenichi.
Un grand pape de la techno et qui avait bien amené vraiment un son techno très particulier.
Ouais.
Alors quel serait le coup de pied au cul que t'aurais envie de foutre à nos auditeurs là, vraiment, enfin vraiment le coup de pied dans les oreilles?
Non, moi je fais pas de coup de pied dans les oreilles. C'est que cette année par exemple, on va sortir beaucoup de titres qui regardent vers la culture classique japonaise, quoi, des titres. Oui, là on a toute une programmation, c'est pure culture japonaise, quoi. Qui dire en premier? Ben on va revenir avec l'auteur de Togari et avec sa nouvelle série Kurozakuro. On va venir avec Natsuki Sumeragi, c'est-à-dire du manga d'une fille shoujo, mais d'un dessin très classique chinois, d'un dessin, ça va être très chinois, quoi, culture chinoise. Très raffiné. On va faire Onmyoji. C'est sur un chasseur de démons. C'est sur un maître du yin et du yang. Un maître du feng shui, quoi. C'est. Ça va être le. Je veux dire, David Chicode, c'est de la daube à côté, quoi. Tu vois. C'est carrément de la daube. David Chicode ou. Comment il s'appelle, Umberto Eco, là. Tu vois. Tous ces gens-là. Voilà, tout ça, ouais, c'est de la daube, quoi, à côté, quoi. Nous, on va vous filer. Même le Seigneur des Anneaux, c'est de la daube à côté, quoi. Nous, on va vous faire le pur truc, tu vois, le pur truc de maître.
Pur trip mystique.
Ah non, le vrai truc des énergies, quoi, tu vois, tellurique. Et on va faire aussi une histoire de voyou, branleur, yakuza qui devient moine, bouddhiste, quoi. C'est des trucs à lire en fumant des pécos, quoi. C'est Bob Marley, quoi. Le Bob Marley du bouddhiste, quoi. Coup de boule dans la gueule, quoi. Non, ça va être drôle. On va faire des covers très 70s, tu vois, très fumés. En même temps, tu sais, faire un peu de l'humour sur les bobos qui mettent des bouddhas sur le mur et qui achètent de l'encens parce que ça sent bon, tu vois, avec un gros branleur qui met des coups de latte, tu vois. Tu vois, ça va être funny, quoi. Et puis toujours bon bec, nana, côté rock, parce que ça va monter côté musique. Et puis on fera des hors-séries de bec où l'auteur il parle de tous les groupes 60s, 70s, tout ça, 80s qui l'ont branché, tu vois. Et puis qu'est-ce qu'on va, on va avoir Sabu, c'est samouraï aveugle, quoi, comme Satoichi, mais c'est Ishinomori, quoi. Ça c'est d'une grande noblesse, quoi. Ça va claquer, quoi. C'est des séries de chevet, tu vois, pour la voix du guerrier, quoi. Et puis on va faire aussi Kamui. Tu connais Kamui?
Je crois que j'en ai entendu parler, oui.
Ah, ça c'est le manga que lisaient les étudiants japonais pendant toute la contre-culture japonaise, tu vois. Fait par un mec plutôt de gauche, extrême et tout, sur l'époque animiste du Japon, à coups de serpe dans la gueule et tout, sur l'oppression des pauvres et tout, avec les ninjas et tout. Tu vois, ça c'est saignant, barbare et sauvage, c'est la nature, tu vois. Tu vois, ça va être hardcore, quoi. Tu vois, mais c'est des classiques, tu vois, mais c'est les loups qui déchirent la peau, quoi. Tiens, des trucs aussi forts que ça. Tu vois, dans les classiques, quoi, les mangaka à couilles, quoi, des années 60-70. Tiens. Et puis, truc aussi, plus... on a une série, là, c'est mon fils, quoi. Génération, tout, coq de combat et tout, pour les mecs qui font un peu d'arts martiaux, quoi. Truc de sabre, truc un peu mystique, quoi, avec des métaux pourris qui viennent de météorites, quoi. Et les forgeurs de sabre, tu vois, des trucs comme ça, quoi, là... Comment on appelle, Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est du Conan avec du sabre japonais, tu vois, un peu les temps obscurs, quoi, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais, il va y avoir des côtés très classiques, raffinés, quoi, haut de gamme pour l'aristocratie des lecteurs de manga, tu vois, pour les dames, tu vois, et les guerriers, et puis des trucs de bourrin, de la bourrinade enracinée, tu vois, un gros coup de sabre en métaux ferrugineux. Tu vois, gaulois, quoi. Ouais, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, de la, l'énergie du caractère, quoi, et puis de la noblesse et de l'altérité et de la piave. Ouais, du Japon, quoi.
Hi. Vere sensei, domo arigato gozaimasu.
Ouais, mon petit gars.
Complètement allumé, je vous avais prévenu. Dominique Verret, donc, qui est vraiment l'éminence grise de la manga, le sensei, qui alors que Glénat, occupait le terrain avec juste deux titres, avec Akira et Dragon Ball, Verret a littéralement fait exploser l'importation de bandes dessinées japonaises et l'adaptation aussi de toute la BD asiatique en France, justement de ce côté-là. Sans lui, on n'aurait peut-être pas découvert ce qui vient de Corée du Sud, ce qui vient de Chine continentale, ce qui vient de Hong Kong, ce qui vient de Taïwan. En tout cas, il a vraiment fait découvrir quelque chose qui n'était pas exclusivement destiné à des garçons libidineux. Il a fait découvrir aussi la manga de sentimentale avec les BD de Katsura comme Is ou Video Girl. Il a fait découvrir effectivement Amer Béton, qui est cultissime et qui pourtant n'avait pas vraiment bien marché à l'époque en France, et plein d'autres choses. Donc il verra, à chaque fois que je le rencontre, c'est un grand plaisir. Et là, encore une fois, c'était une fois de plus. Il y a du sport qui est mort de rire. Ça tombe mal, il y a la régie pub qui me dit qu'on a débordé de 6 minutes 37 secondes. Et hop, zou !
Hello, who's that speaking, please?
Le lavage du cerveau, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Le lavage du cerveau ne sert pas à grand-chose. Et vous pouvez en profiter tous les lundis sur FMR 89.1 avec le GBBG, le Grand Bazar Bernard Granchet. Rediffusion n'importe quand, n'importe comment sur FMR. Rediffusion du GBBG n'importe quand.
Six gars du Tucson, Arizona, monteront sur la scène de la SDF de Ramonsville. Sans mariachi, mais avec de la tequila, Joey Burns et ses compères de Calexico partiront pour des envolées dont eux seuls ont la recette. Tel John Wayne sous codéine, quand tu le vois rouler sa clope sur la selle de son canasson et qu'il se détache sur l'horizon, tout rougi par l'astre couchant, ce sera beau. Calexico, mercredi 24 octobre, SDF de Ramonsville. Yahoo!
Et dans le supplément week-end, on vous avait fait découvrir ça sur Radio FMR, justement, grâce à Dominique Verret. C'est un groupe de ska japonais qui a littéralement cartonné, et quand ils sont venus à Toulouse, c'était plein à craquer. J'étais arrivé juste une minute trop tard parce que c'était bondé, et ils ont une énergie absolument monstrueuse. C'est Kemuri! Talk. 12 pour Sama, ok Daska. D'accord, il est en train de finir son verre d'eau, comme on dit. Et ben, je pense qu'on va entamer.
Ouais, ça va, ouais, ouais. Je crois que j'ai compris ce que tu avais dit là.
Bon.
Il m'a fallu du temps, tu vois, je suis pas familier du japonais, alors c'est pour ça.
Ok, on y va avec la télévision. Comment vas-tu, Dus, ceci dit?
Ouais, ça va bien. Non, on commence d'abord par la BD. Ouais. Parce que y a pas eu de chronique de BD. Hein. Enfin, j'ai loupé le début de l'émission.
Bon, non, il y en a pas eu.
Que dalle, hein, genre Xavier qui fait le minimum, le strict minimum légal, hein, à savoir.
Pas là, je il a même pas technique. De mot d'absence. Attends.
Je fais la technique tranquille, j'envoie une interview qui fait plus d'une demi-heure, enfin excellente au demeurant, et pour les BD, ben tu peux te brosser. Tu peux te brosser, tout simplement. Non, bah ça tombe bien, tu vois, c'est le hasard quand même qui fait les choses. En fait, je suis venu avec Spider-Man de Marvel, donc un hors-série qui vient de sortir. Le hors-série numéro 23. Et pourquoi celui-là et pourquoi pas un autre? Parce que bon, il y a quand même toute une flopée, hein, de Marvel, tout est pas mal de super-héros, de groupes de super-héros qui sont à l'affiche en ce moment, hein, que vous pouvez avoir les Astonishing, les Ultimate X-Men, enfin bon, il y en a plein
et d'autres.
Mais celui-là par contre, il est un petit peu spécial quand même. Pourquoi? Parce que au dessin Terry Dodson, alors moi j'aime bien, hein, je connaissais pas tellement Terry Dodson, mais moi j'aime bien ce genre de dessin, c'est relativement classique, on retrouve
oui, c'est assez classique,
un petit peu de classicisme, il y a quand même...
Et puis c'est les couleurs offset, un peu sorties du tube.
Ouais, c'est pas mal, c'est ça fait plaisir, quoi, j'aimais pas ceux qui étaient un petit peu trop... Tu vois que ça, tu sens. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, bon, t'as plus l'impression que c'est dessiné à la main, quoi. Par rapport à certains autres, tu sais que c'est dessiné sur la palette graphique, sur l'ordinateur. Donc les mecs, bon, c'est pas la même façon de travailler. Bon, ben voilà, c'est tout. Hein. Mais par contre, c'est le scénario avec Kevin Smith. Kevin Smith, alors là. Qui est Kevin Smith? C'est Clark.
Mais qui est ce Kevin Smith?
Clark, c'est donc le film qu'il a fait connaître. Il a eu Mallrats, Méprise Multiple, Dogma, Jay and Bob Contre-Attaque. Enfin, dans ce genre de film un petit peu délire, un petit peu débilos comme ça. Hein, fait pour les
punk. Ados
ouais, punk, pour les, ouais. les ados nerds punk du New Jersey, qu'il y a rien d'autre à foutre que fumer la ganja toute la journée et regarder la télé.
C'est vraiment le cinéma indépendant qu'on a rien à foutre de
voilà,
Télérama.
Voilà. Et donc Kevin Smith qui s'attaque donc à ce scénario, c'est un arc de plusieurs aventures, enfin d'une seule histoire de Spider-Man, mais en plusieurs épisodes, et ça s'appelle L'Enfer de la Violence. Alors s'il est un petit peu spécial, c'est parce que bon, aux États-Unis, en fait, le numéro que j'ai en main, hein, qui sont trois petites histoires qui se suivent, eh bien, était la première mouture, la première partie d'une histoire que Kevin Smith n'a pas pu développer. Il a eu trop de boulot parce que réalisateur, donc il a laissé tomber en 2002 quoi, les lecteurs qui avaient ce numéro entre les mains, qui avaient lu donc toute cette partie de l'histoire, hein, vraiment intéressante avec le point de suspense en plus quoi, juste avec le bon cliffhanger quoi, histoire de bien te faire patienter. Et en fait ils pensaient patienter quelques mois parce que Kevin Smith s'était occupé, mais en fait ils ont attendu 3 ans et donc la fin de l'histoire ils ne l'ont su, c'est-à-dire la deuxième partie.
Ils ont eu la puberté.
Et ils ne l'ont eu que l'année dernière avec les excuses de Kevin Smith. Ouais, je sais, je suis impardonnable. Enfin, j'avais du boulot. Et puis bon, mais enfin bon, la fin que je vous ai fait, elle est vachement mieux maintenant que si je l'avais fait en 2002. Enfin bon, le mec carrément y allait s'excuser. Parce que bon, les fans de Spider-Man, faut pas plaisanter avec ces mecs-là. De toute façon,
oui, et puis c'est vrai qu'il introduit une méchante qui est assez jolie.
Ah non, c'est pas là, elle est pas méchante. Hein. Là, Black Cat, si tu veux, Felicia Hardy, elle est du côté de Spider-Man. Bon, dans le temps, ils s'affrontaient un petit peu, ils avaient une aventure amoureuse. Lui, il avait laissé tomber et puis il avait épousé Mary Jane parce que bon, c'était pas tellement ça. Elle avait pas de super pouvoir au départ, mais elle s'en est fait, s'était fait filer par le Kaïd et bon, il a fallu que le Docteur Strange arrive pour les enlever parce que bon, elle foutait la poisse à autrui, tu vois, tous les autres. Donc ça foutait un petit peu mal. Et bon, on parle un petit peu de cette histoire d'amour dedans. Alors bon, c'est écrit par Kevin Smith, hein, c'est
pas que histoire d'amour quoi. Ça y va à poil sous la douche et puis.
Ouais.
Ah
Ouais, donc ça commence par Felicia Hardy sur la douche, hein, donc ça commence très très fort de toute façon, mais après l'histoire tient le choc, hein, Felicia et Spider-Man qui se retrouvent sur une histoire commune en fait, le décès de proches connaissances, d'overdose, et donc ils se demandent pourquoi, alors que bon, ils avaient pas l'air, il n'y avait pas de traces de piqûre, il n'y a que dalle, donc... comment ils ont fait, comment ça peut se faire. Et en fait, le combat contre le super vilain, en fait, un super vilain qui a un petit peu les traits, on va dire, oh, je sais pas trop, hein, à qui te fait penser, toi, ce mec-là, là. Le super méchant, là. Quoi.
Ah, moi, tu sais qui me fait penser ouais. Aux chiffres dans le tout premier Casino Royale.
Ah ouais, pas mal, ouais, bien joué. Ouais,
hein
ouais,
non, ouais, franchement, ouais, ce ouais, petit ouais. Air un peu de...
Assimilé un petit peu à Donald Trump, quoi, dans l'histoire. Mais enfin bon, c'est vraiment très très plaisant, hein, ça, c'est pas mal. C'est pas pour les gosses, c'est quand même assez adulte, hein, parce que bon...
J'ai dit le nom d'un film totalement obscur parce que j'ai oublié qui était ce réalisateur, d'ailleurs.
Ouais, donc...
mais c'est vrai que...
T'as quand même des trucs un peu durs, quoi, on va dire, quoi. Ah, c'est quand même pour les ados, déjà, et tout, mais c'est vraiment très très bien. Et donc, nous, on va pas devoir attendre 3 ans pour avoir la suite, c'est-à-dire la fin de ce hors-série Spider-Man numéro 23. Le numéro 24, il paraît en décembre, donc ça fait bon ouais, un petit mois encore à patienter pour avoir la suite et la fin de cette histoire écrite par Kevin Smith. Alors, avec Terry Dodson au dessin, moi je continue à dire que c'est vraiment pas mal. Pour vous en rendre compte, si vous achetez celui-là, à la fin, il y a une autre petite histoire de Spider-Man Unlimited. Et bon, c'est une histoire vachement marrante, quoi. C'est assez rigolo, quoi, quand même. Mais bon, moi, je suis moins fan au niveau dessin, au niveau graphisme de Unlimited, par exemple, par rapport au dessin de Dodson. Voilà. On écoute un petit peu de musique et ensuite on parle de télé, hein.
Allez. Ok. Et tu sais ce qu'il dit, le super vilain, à la fin de l'épisode ?
Non, non, pas du tout.
Je reviendrai la semaine prochaine.
Non, 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 parce que ça se termine, le cliffhanger, quoi, se termine sur... bon, le mec, il a le pouvoir de droguer les gens à distance, quoi, donc tu sais pas comment il fait. Enfin bon, genre, il les défonce, ils sont complètement défoncés, genre très high, quoi, et bon, ils crèvent, quoi, de toute façon, puisque c'est trop... ils ont trop de dope, quoi, tu vois, donc... et en fait, le cliffhanger, c'est que, bon, bah, Black Cat, toute seule de son côté, quoi, sans rien dire à Spider-Man, elle essaye de rentrer chez... Monsieur Klum, et en fait lui il sait, il l'attend et puis il la drogue et là elle est en train de décliner et tout, mais que va-t-elle faire, mais va-t-elle crever, mais va-t-elle mourir d'overdose avant que Spidey puisse venir la sauver, la secourir, on ne sait pas, on ne le saura donc qu'en décembre avec ce numéro 24 de Spider-Man hors série. Alors de la télé à présent avec j'ai un petit programme un petit peu plus détaillé en ce qui concerne une des nouvelles chaînes dont je parlais la semaine dernière et les semaines d'avant. C'est du côté de chez vous TV, la chaîne
Le Rui Merlouille.
Le Rui Merlin con TF1. Pour l'instant, ce que je disais, mais enfin c'est un petit peu affiné quand même au niveau des programmes diffusés à l'antenne en ce moment et ce jusqu'en mars, hein, grosso modo. Après, ben il y a plein de programmes qui sont en train de tourner, en cours de production, donc qui seront diffusés à partir de mars, qui seront des programmes propres donc hein, de cette chaîne du côté de chez vous TV avec l'excellente émission qui s'appelle Côté Maison qui est diffusée par France 3 Sud qu'ils ont acheté. Donc avec Laurent Petit-Guillaume et les nanas, tu sais, Monsieur Robert qui fait la bricolage et tout, c'est
mais tu vas voir, c'est facile.
Ouais, facile. Et celui-là et ce produit, il est écologique en plus.
Enfin, attends, tu prends 4 Kaiboti, moi je te fais une table de nuit, tu vas voir, facile, c'est très simple.
Facile. Et donc Côté Maison donc avec Petit-Guillaume, alors c'est diffusé du lundi au vendredi à 8h30, à 15h et à 19h. Il y a également une rubrique, une émission qui s'appelle Décor ta vie. Alors, c'est le principe est simple, c'est en une journée.
Tu es pas la femme de déco.
Une équipe redécore entièrement l'intérieur d'un téléspectateur. Enfin, l'intérieur, l'habitation, hein, pas l'intérieur. Du calme. C'est un magazine canadien. Alors donc peut-être avec les doublages québécois, ça peut être rigolo. Du lundi au vendredi, également tous les jours de la semaine à 9h, 14h30 et 19h30. Il y a également du côté de chez vous magazine. Alors c'est une version allongée des petits modules que tu voyais après le journal de TF1 après le 20h.
Et sur RTL9.
Ouais. Donc là c'est une version allongée. Donc ça passe le samedi à 14h avec en plus des rediffusions. Il y a également jardin et loisirs. Alors ouais, rubrique jardin, jardinage et tout. Et là on a droit au Michel Lys belge, Luc Noël pour cette rubrique où je vous rappelle quand même la meilleure du genre à la télé, hein, c'est Silence ça pousse
oui.
Sur Arte
sur,
ou
sur
France 5,
sur France 5
ouais,
et qui est édité en vidéo d'ailleurs par AK Vidéo, qui est un éditeur de manga, comme quoi.
Voilà. Donc tout ça sur cette nouvelle chaîne s'appelle Du Côté de Chez Vous, qui a démarré donc lundi dernier. Sinon, un petit programme de ce qui va se passer jusqu'à mardi prochain. Après, j'ai dû partir à la radio parce que j'étais un peu à la bourre, tu vois, genre, quoi. Avec ce soir, dans Charmed, sur M6, à partir de 20h50, deux épisodes. L'antidote en deuxième partie et la femme et l'avenir de l'homme en première partie, mais il faut savoir que c'est un épisode qui est réalisé par LeVar Burton. Tu te rappelles de LeVar Burton?
Non, mais vas-y, tu peux développer dans ce cas-là.
Jordi Laforge dans Star Trek Next Generation, c'est le
les lunettes à Jean-Michel Jarre.
Voilà, avec les lunettes, voilà. Qui joue également dans la série.
Si vous voyez pas de quoi on parle, si vous avez la TNT, regardez à 18h tous les jours sur W9.
Kunta Kinte, Racine également.
Eh oui, c'est
il
vrai.
Il y a vachement plus loin, plus longtemps. Là, il était très jeune, là. Enfin, il est pas spécialement plus vieux dans Next Generation, hein, de toute façon, hein, où il a quand même tenu, depuis le début. Il a fait les films, hein, qui correspondent. Mm-hmm. C'est l'équipe avec le capitaine Picard, là, le commandant Picard. Next Generation. Entre autres avec Jonathan Frakes et toute la bande LeVar Burton donc qui réalise le premier épisode de Charm ce soir sur M6 à 20h50. Sinon du cul. Alors vous dites
non,
c'est vachement soft.
Non.
C'est vachement soft dans
non
Charm.
Dehors les filles.
Là, il y en a, et en plus, c'est un des fleurons du genre, hein, c'est grosso modo, ni plus ni moins que le film qui pornographique qui a fait vachement parler de lui, hein, qui a fait connaître au monde entier, on va dire, qui a une situation pornographique. Et puis
je suis en train d'imaginer Thomas qui est chez lui en train de nous écouter avec sa famille. C'est pour ça qu'il est pas là, qu'il doit être tout rouge.
D'accord. donc qui a valu surtout, eh ben, un succès au box-office, on va dire, hein, parce que bon, c'est à l'époque, hein, les films sortaient en salle, même les films X, donc aux États-Unis, ça a cartonné. C'est un film qui a été fait pour des bouts de cacahuètes, hein, comme tous les films porno généralement à cette époque-là, mais qui a rapporté des millions de dollars. Et ça s'était jamais vu. Il y avait jamais
faire
vu ça
avec du pognon avec des filles à poil.
Avec un film de cul. En plus, bon, l'argument était décrit tel que dans le titre, hein, c'est-à-dire gorge profonde, hein, qui était une des spécialités de Linda Lovelace,
soi-disant, elle a son point G quelque part coincé entre la glotte et le poumon.
Voilà, c'est ça. Bon, il vaut surtout parce que bon, c'est rigolo, il y a les scènes d'orgasme et tout, tu vois, des fusées qui décollent, des feux d'artifice, des trucs à la, t'as un gimmick, comme je sais pas, il
appelle le même shoot. Et tout.
Non, mais c'est vrai, c'est pas mal, c'est une bonne idée, quoi, je veux dire, dans un film de cul, de faire des trucs comme ça.
C'est ça qui l'a rendu cultissime et qui a donné son nom à deux journalistes, je dirais un peu libidineux,
voilà,
dans
un peu
une
plus tard,
célèbre affaire.
Un peu plus tard, hein, puisque Deep Throat original.
Non, pas celle des frégates de Taïwan.
Non, l'affaire du Watergate. Alors Deep Throat, ben, c'est normal, c'est sorti en 72, deux
ans
avant.
Hein. C'est à peu près même. Donc,
écrit et réalisé par Jerry Damiano, qui lui, ben, il en a produit à la pelle et à la tonne, et ça lui a valu justement vachement de nom, hein, de se faire un nom à propos de ce film. Linda Lovelace, elle, après le film, elle a renié le truc, elle est devenue chrétienne à fond les manettes,
enfin, oui, bon, tout à fait fondamentaliste,
tout ça. Et tout ça, bien, c'est décrit dans le documentaire qui est diffusé avant la diffusion du film Deep Throat ce soir sur Canal Plus. C'est ça, hein, c'est film de cul du samedi soir, hein, sur Canal Plus. C'est le documentaire qui s'appelle Inside Deep Throat, un documentaire réalisé l'année dernière par Randy Barbato, sérieux et tout, et Fenton Bailey, hein, qui est de 1h30 quand même, et qui est estampillé moins 16 quand même, quoi, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a des extraits du film de toute façon, et à 0h55 donc ce soir sur Canal Plus, le fameux Deep Throat de Jerry Damiano, interdit au moins 18 ans, ça vous devez vous en rendre compte. Alors si vous préférez les trucs plus soft, on va dire, plus suggestifs, hein, on va dire, parce que Deep Throat, ok, c'est du net et du précis, hein, et encore à l'époque, bon, c'était pas aussi clinique que ça peut l'être de nos jours, on va dire.
Oh non.
Une petite perle quand même, hein, c'est ce soir sur Sci-Fi ou Sci-Fi Channel pour les anglophones, et c'est la série des Flash Gordon, la parodie, hein, de Flash Gordon, donc la
grandiose parodie de Francis Wu. Ça a été diffusé récemment, enfin ça a été projeté récemment, on dit pas diffusé, hein, dans une salle de cinéma,
voilà,
mais sur la Dépêche,
ouais.
À la Cinémathèque, il fallait oser, et c'est vrai que c'est cool.
Et ben, séance de rattrapage, c'est ce soir sur Sci-Fi, donc à partir de 22h30. L'original Flash Gordon de 72, hein, de Ben Veniste et Jim, hein, qui sont un petit peu les pères putatifs des Zucker Abrams, quoi, on peut le dire, hein.
Oui, tout à fait. C'est ça, c'est juste en fait prétexte à du gag, quoi.
Voilà, avec Jason Williams, Susan Fields et Joe Hudgens, interdit au moins de 16 ans quand même. Et à 23h35, donc dans la suite, puisque le Flash Gordon original, il est pas long, il fait 1h10. Il y a le retour de Flash Gordon, mais là du même Howard Zim, mais vachement plus récent, de 89, avec donc plus du tout les mêmes, tu m'étonnes. Vince Murdoch, Robin Kelly, ouais, Tony Travis et Morgan Fox, qui est peut-être la cousine de Samantha, qui sait. c'est ce soir.
Non, tu sais ce qui arrive si jamais tu commences à parler de ça. Là, tu les accumules, hein. Allez, dehors les chanteuses.
Dommage. Sinon, ce soir, un petit Jeff Fahey, pourquoi pas. Hein, ça s'appelle Johnny 2-0, c'est un New Farnet de 97 avec Jeff Fahey, avec Tani Welsh, la fille de Raquel, et
oui,
Michael Ironside, qui va jouer le rôle d'un enculé d'enfoiré de première, comme d'habitude. Et le pitch est très simple, hein, c'est en 2020, donc pas loin de... On va y arriver, hein, bientôt. Sur une terre devenue quasiment inhabitable. Ah bon? Pourquoi? Bah, on va le savoir. Un clone est chargé de retrouver son original. C'est Jeff Fahey, donc c'est ce soir dans Johnny 2-0, c'est sur AB1 à 20h55, et c'est estampillé moins 10. Alors demain dans les experts, Alors, je sais pas si t'as remarqué, enfin, tu lis peut-être pas ce genre de canard et tout si tu regardes dans la Dépêche, le Courrier des Lecteurs, ou si tu regardes les éditos des magazines des magazines de télé, tu vois, genre les suppléments de télé de la Dépêche ou des trucs comme ça. Et ils parlent de plus en plus du fait qu'on a remplacé le film. Il y a Del Piero même dans la Dépêche dans sa
rubrique. Oui, mais ça c'est parce que les industriels du cinéma font un lobbying incroyable en ce moment en disant il y en a ras-le-bol de ces séries qui nous piquent la place.
Ouais, lui il arrête pas, mais enfin lui depuis le début, mais bon, lui c'est parce qu'il aime bien mon film du dimanche soir, c'est une tradition quoi. Tu vois, c'est une tradition qui a été cassée, c'est énorme quoi.
Hein, c'est
surtout
clair.
Sur TF1, sur France 2, bon, on s'en fout quoi, à la limite, tu vois, quand même. Sur TF1 quand même. Non mais oh. Et là, de plus en plus, hein, ça m'étonne carrément. Même dans un télécable, hein, dans le télécable la semaine dernière, je l'ai pas ramené, mais bon, il y a carrément également une petite rubrique comme ça et tout. Ouais, le film de dimanche soir, il y en a plus et tout. Il y a les experts. Alors, les experts, il va encore y en avoir demain soir, là, dimanche prochain, mais demain soir, c'est les deux derniers de la saison 6, donc le final de la saison 6. Alors là, attention, ça va charcler grave, sérieux, sévère, avec tout d'abord. Le premier à 20h50 sur TF1, c'est le seul rescapé, moins 10. Ensuite, le dernier, le final de la saison 6, entre la vie et la mort, hein, moins 12. Et ensuite, ce sera, pour finir, un petit épisode, moins 12 également, mais de la saison 5. Donc, un épisode peut-être pas encore diffusé. Pendant ce temps-là, demain soir sur France 2, ben, c'est VI Portée Disparue à 20h50. Il n'y a que deux épisodes de la saison 4, donc deux inédits. Le premier, Amnésie, avec Melissa Sagemiller. Et le deuxième, Le Sang Versé, avec Marie-Elisabeth Mastrantonio. Ensuite, comme d'habitude, après les deux Without a Trace, on a droit à ER, Emergency Room, en version originale, ou Urgence en français, si vous préférez. Avec à 22h30, l'épisode L'Heure du Choix, et à 23h15, Corps et Âme, avec comme invité un certain James Woods qui va jouer le rôle d'un vieux prof de médecine qui arrive là en tant que patient. Ça peut être bien, ça peut être rigolo, ça peut être pas mal. Hein. On se rappelle que Ray Liotta avait fait un excellent numéro dans un épisode d'Urgence de la saison, je sais plus, 9 ou 8, enfin bon, qui lui avait valu, je crois, une nomination aux Emmy, ou même un Emmy hein, pour sa performance. On peut voir si James Woods est capable également, comme ça, de rehausser, tu vois, temporairement le niveau d'une série, par le seul fait que il se retrouve doté d'un personnage en or, d'un personnage qu'il arrive à bien travailler, ce qui à la télé n'est pas forcément toujours évident. Enfin bon, quand c'est des bons acteurs, généralement les mecs ils y vont tranquille. Et il faut quand même reconnaître aussi à cette série que ça a été une des rares séries à pouvoir diffuser un épisode tourné en direct. Ça c'était assez inédit et c'est très difficile à faire en plus. Hein, on nous a fait le coup de 24, une série en 24 heures et tout. Réduction du temps et un truc comme ça. C'était du temps direct en live et tout. Donc
jouer trois fois de suite.
Et jouer trois fois de suite parce qu'il fallait que ce soit diffusé sur les trois fuseaux horaires américains. Chapeau quand même les gars. Hein. Enfin, c'était quand même l'époque où il y avait l'équipe originelle pratiquement de ER. Je rappelle demain soir un deuxième épisode de ER de la saison 12 avec James Woods. Sinon, un petit téléfilm du dimanche après-midi. Alors, t'as le choix entre Barnaby sur la 3.
Ah, enfin, pour moi, c'est vraiment le bonheur, Barnaby, parce que le nombre de mecs qui arrivent à se faire flinguer dans les campagnes anglaises, ça va se dire que c'est vraiment d'une criminalité monstrueuse.
Ouais. Et surtout qu'ils
se connaissent tous.
Surtout que le titre de demain, je sais pas, il m'avait échappé ou on a dû échapper à celui-là, c'est Qui a tué Cock Robin? Donc ça a une signification un peu bizarre hein, pour ici en France quoi. Enfin bon, ok. Il y a un téléfilm sur M6 comme d'habitude. Là, il peut être assez intéressant. Et je crois que je l'ai déjà vu en plus quoi. Il me semble. Hein, c'est sur M6. De 13h20 à 16h45, ça s'appelle Jugé coupable de Mick Garris, assez récent hein, de 2001 avec Edward James Olmos dans le rôle d'un juge, mais enfin qui va se faire. Il va se faire démonter, il va se faire accuser d'un truc qu'il a jamais fait, mais enfin bon, machination et tout le bordel. Il y a Chris Nott également, Charles Durning et Lolita Davidovich. Donc ça peut être assez intéressant. C'est demain après-midi sur M6 de 13h20 jusqu'à 16h45. Hein, c'est deux téléfilms à la suite. Vas-y manga, tu peux y aller. On termine avec quelques petits films la semaine prochaine. Tout d'abord, demain soir sur Ciné Polar, Driller Killer, là j'en parlais, il y avait une soirée Abel Ferrara, là il y a que le Driller Killer, de et avec Abel Ferrara, donc à 20h45 sur Ciné Polar, à 22h20, Les Mains qui Tuent, là c'est l'un des originaux, quoi, celui de Siodma, qui est également La Main du Diable aussi, je crois, l'autre avec...
qui est beaucoup plus vieux d'ailleurs.
Non, grosso modo la même époque, on va dire. Là, Les Mains qui Tuent, c'est un Siodma, hein, de 43. Et à 0h10, Matt Helm, agent très spécial. Ça, c'est le premier de la série, hein, de Phil Carson avec Dean Martin.
Bon, ils sont drôles, ça se regarde comme une curiosité. Mais après, il faut se dire, bon, allez, on regarde ça, mais uniquement pour mieux comprendre après les Austin Powers. C'est tout.
Exactement, exactement. T'as tout pigé, quoi. Vous voulez savoir où il y a toutes les vannes de Austin Powers, ben, je vais vous le dire.
Je me suis regardé de 22h à 2h du matin, et puis je me suis dit, bon, il faut que je continue par un Austin Powers. Sinon, je dormirai pas.
Alors, Mattel, ma chanteur spécial, c'est demain soir, donc, sur Ciné Polar à 0h10. Mais par contre, mardi prochain, justement, sur Ciné Polar encore, il y a d'autres Matt Helm. Il y a Matt Helm, Règle ses comptes, c'est le troisième ou le quatrième déjà de la série, de 69, de Phil Carson, avec Elke Sommer et Sharon Tate, en 69, mon gars. Ça te dit quelque chose, là? Sharon Tate? Pas du tout. Eh ben, elle en avait plus pour longtemps à vivre, mon gars, vu qu'elle allait se faire dégommer par Charles Manson.
Ah oui, c'est vrai! Oh punaise.
Donc profitez-en, donc c'est mardi prochain, Matt Helm règle ses comptes avec Dean Martin, Elke Sommer et Sharon Tate, suivi de Matt Helm traqué, qu'on a vu la semaine dernière, qui lui est de 67 et qui n'était pas réalisé par Phil Carlson mais par Henry Levin, à 22h30, toujours sur Ciné Polar. Sinon, lundi prochain, soirée spéciale sur Canal Jimmy FBI avec une mini-série, on va dire, hein, mais là c'est diffusé à l'appel, une mini-série de 3 épisodes de 50 minutes, donc c'est diffusé d'un seul coup sur Jimmy, un truc anglo-américain, on va dire, qui s'appelle État d'alerte, qu'on a déjà vu, hein, déjà diffusé, mais enfin qui est assez intéressant quand même, avec Dylan McDermott. Il y a un casting et américain et anglais qui est assez intéressant, ça joue juste, les situations sont pas mal, assez bien rendues, avec McDermott en plus, qui a un rôle assez de bon enfoiré, hein. Dylan McDermott, c'est The Practice, quoi, hein, l'avocat McDonnell dans la série The Practice, et là il a vraiment un rôle, bon, les ricains, ils veulent se prendre des avions sur leur tour et tout, donc ils ont un peu les boules, tu vois, alors faut pas leur faire, quoi, tu comprends, et lui, Dylan, vraiment, non, faut pas lui la faire, quoi. Et c'est de Mike Salomon, donc de 2004, ça avait déjà été vu, mais c'est assez intéressant, donc là, à voir les trois à la file, suivi d'à 23h05 de Histoire secrète du FBI, un documentaire de Clara et Robert Kuberberg, tout à fait récent, vu qu'il date de cette année. Je termine avec une petite curiosité, mais ça, c'est assez regardable quand même. C'est sur RTL9 mardi prochain. C'est un truc qui s'appelle Les Sorcières de Nicolas Rugg. On en parlait la semaine dernière de Nicolas Rugg dans le cadre des Direct to Video.
Oui.
Hein, et là, c'est diffusé sur RTL9. Nick Rugg de 90, Les Sorcières, film anglais, donc, avec Jason Fisher, Angelica Houston, Mike Zetterling et Rowan Atkinson, mon petit pépère, hein, pour voir ce que ça donne. C'est mardi prochain à 20h45. Voilà,
d'ailleurs, c'est assez poilant, d'ailleurs, comme film. Il est bien foutu, d'ailleurs. Zou.
Et ben voilà, c'est ainsi que se termine le supplément week-end. Si vous avez manqué le début, sachez donc qu'il y avait une interview assez longue de Dominique Verré, qui donc est une des personnes qui a vraiment fait que le manga, c'est installé en France. Ensuite, et ben il y a eu de la chronique BD, mais cette fois-ci par du sport et de la télévision. Et si vous voulez réécouter l'émission en entier, vous pouvez le faire sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Vous me laissez juste le temps de préparer l'émission. Normalement, dimanche, c'est fait. Voilà, vous irez sur le site de la radio, vous tomberez sur notre site, où là, il y a toutes les émissions, tous les suppléments week-end, ils sont archivés, donc vous pouvez les réécouter en entier et justement vous faire beaucoup plaisir et même commenter, dire oui, non, j'aime pas et tout le reste. Ceci dit, la suite des programmes sur FMR 89.1 MHz, tout de suite c'est du sport, et puis figurez-vous qu'à 15h il y aura scène transmission, 16h le potager, 17h Big Bang, 18h vie d'ordure, 19h protégez-vous, 20h la stéréo expérience et 21h30 stay tuned. Et d'ailleurs, je crois que SKS et Payo continuent leur créneau, apparemment, je les ai entendus samedi dernier. Si, je les ai entendus samedi dernier, ils continuaient, donc je ne sais pas, ça reste à voir. Oui, mais ça c'est Payo, mais apparemment SKS a son propre programme maintenant le samedi. Je n'en sais rien, je n'en sais pas plus.
Ça, c'est le plaisir des nouveaux programmes. Et de la nouvelle grille. Je vous laisse avec du sport. Ciao, see you la semaine prochaine. Même heure, même antenne. Et même bazar. Allez hop, ciao, bye.